Chapitre 7e. Le second appartement du deuxième étage était occupé par M. de Francheville, sous-secrétaire d'État d'un ministère. Ce haut fonctionnaire, âgé de 60 ans environ, s'entretenait avec un petit vieillard alerte et sec, d'une physionomie matoise, portant des besicles d'or et coiffé d'une perruque noire artistement frisée. Le petit vieillard avait nom M. Morin et disait en ce moment au fonctionnaire « Enfin, mon cher monsieur, pour aller droit au fait, votre ministre, alité depuis quelques jours, vous a-t-il donné, oui ou non, carte blanche au sujet de la dite fourniture ?»«
Oui. »«
Cette fourniture dépend donc absolument de vous. »« Absolument. Le ministre signera l'acte que je lui soumettrai à ce sujet. C'est entendu entre nous. »« Cette signature, il peut la donner aujourd'hui ? » ?»«
Sans aucun doute. » »«
En ce cas, pourquoi n'acceptez-vous point mes offres purement et simplement ?»
Parce qu'il ne me paraît pas convenable de les accepter.
Cependant, mon cher monsieur, 122 000 francs en beaux billets de banque et quittance générale de 160 et 18 000 livres que vous me devez, total 300 000 francs, c'est une somme.
Évidemment, c'est une somme.
Et une grosse somme, mon cher monsieur, une fort grosse somme.
C'est selon.
M. Morin jette par-dessus ses besicles un regard pénétrant sur le haut fonctionnaire, réfléchit pendant quelques instants, prend un crayon dans son portefeuille, fait quelques chiffres sur son carnet et semble les supputer. Puis tout à coup, « Je vais jouer avec vous carte sur table. La fourniture, acceptée par vous aux conditions que je propose, me produira, de bénéfices nets, chiffres ronds, 800 000 francs. Et plus. Je vous affirme que votre bénéfice s'élèvera peut-être à 1 000 000, vous dis-je.
Allons donc, monsieur de Francheville, 1 000 000.
J'ai fait aussi mes calculs.
« Ah, vous avez fait aussi vos... »
Monsieur de Francheville hausse les épaules et jette à Monsieur Morin un regard qui semble lui dire « Vous me prenez donc pour un imbécile. » Aussi le fournisseur s'empresse-t-il d'ajouter « Après tout, c'est juste. Il faut bien se rendre compte des choses. Eh bien voyons, partageons le gâteau. 400 000 francs pour vous, 400 000 francs pour moi. Ça vous va-t-il ?
Oh, c'est à prendre à laisser. Je n'ajoute pas un centime.
Nous verrons. »
« Oh, c'est tout vu. »
Et si vous refusez, j'ai ailleurs l'emploi certain de mes capitaux dans une opération plus avantageuse que celle-ci, mais je vous en préviens, je serai forcé de mettre en circulation les 160 et 18 000 francs d'obligations que vous m'avez souscrites en garantie des fonds que je vous ai prêtés depuis 6 mois environ. Car ces obligations, je les ai jusqu'à présent gardées en portefeuille, selon ma promesse. Or, il vous faudra me les rembourser intégralement. Prenez garde.
Une menace ?
« Allons, mon cher monsieur de Francheville, ne nous fâchons point, nous y perdrions l'un et l'autre, et entre nous, vous seriez un ingrat, car l'intérêt dont je vous ai donné souvent des preuves,
oui, un intérêt à 8% et 4% de commission, telle est la preuve d'intérêt que vous m'avez donnée en prêtant de l'argent à ce taux exorbitant. Ma gratitude, en effet, doit être extrême. »
« Voyons, soyez juste, vous ne possédez pas un sou de fortune. » Est-ce que personne autre que moi aurait consenti à vous faire des avances aussi considérables ? Vous saviez parfaitement que ma position me permettrait tôt ou tard de m'acquitter. Parbleu, est-ce que sans cela je vous aurais prêté un liard ? Aussi, lors de votre premier emprunt, m'avez-vous dit « Soyez sans inquiétude, je disposerai prochainement de plusieurs fournitures considérables et nous nous entendrons. » J'étais persuadé qu'en effet je pouvais, grâce à vous, faire un magnifique coup de filet. Mes seuls risques étaient votre mort ou un changement de ministère. Mais pour gagner beaucoup, il faut risquer beaucoup. Je vous ai donc d'abord avancé 20 000 francs, puis 20 000 autres, et ainsi de suite, jusqu'à la concurrence de 160 et tant de 1 000 francs dont je suis à découvert. Vous m'avouerez que c'est raisonnable, et que si vous continuez d'aller ce train-là... Mais cela vous regarde. Vous faites les choses en grand seigneur, et entre nous, cette petite fille est fièrement heureuse de vous avoir ensorcelé.
« Monsieur Morin, assez sur ce sujet. Nous parlons d'affaires. Chaque chose en son temps. »«
Soit. Eh bien, acceptez-vous, oui ou non, 222 000 francs écus et quittance de vos obligations. Total, 400 000 francs. »«
J'accepte, mais à une condition. »«
Laquelle ?»«
Vous allez écrire une lettre sous ma dictée. »«
Dans quel but ? » ?»«
Écoutez-moi bien.
Cette fourniture... » Le ministère ne peut vous l'accorder en votre nom, puisque vous êtes failli non réhabilité, par suite de plusieurs banqueroutes assez véreuses.
C'est évident. et Gobert sera en cette circonstance mon homme de paille. C'est un garçon raisonnable. Il dépose le cautionnement de 200 000 francs exigé par le gouvernement et l'affaire se conclut sous le nom de Gobert et compagnie. Fort bien. Voilà donc ce que Gobert et compagnie auront à m'écrire. Prenez une plume. Je vais vous dicter le modèle de cette lettre. Vous déchirerez le brouillon et il n'y aura rien de fait, car cette lettre est de ma part une condition absolue.
Quoi, cette lettre ?
Mais indispensable. Et sans elle, je vous le répète, il n'y aura rien de fait. Aucun motif ne me fera changer de résolution à ce sujet.
Voyons donc cette lettre.
Dictée. Répond M. Morin, prenant une plume et une feuille de papier.
J'écris.
Monsieur le sous-secrétaire d'État, dit M. de Francheville en dictant à M. Morin, qui écrit, veuillez être auprès de M. le ministre l'interprète de ma gratitude au sujet de la confiance dont il daigne m'honorer en m'accordant la fourniture que je sollicitais du gouvernement de Sa Majesté. Soyez convaincu, monsieur le sous-secrétaire d'État, que de cette confiance, je me rendrai digne par la loyale et fidèle exécution des clauses de l'acte signé hier par monsieur le ministre.
Monsieur de Francheville s'interrompt et s'adressant à monsieur Morin,
avez-vous écrit ?
Oui, mais en vérité, je ne comprends pas à quoi peut vous servir cette lettre de remerciement.
Attendez la fin et écrivez, répond monsieur de Francheville, et il continue ainsi sa dictée.
Je n'ignore pas, monsieur le sous-secrétaire d'État, que chargé spécialement par monsieur le ministre de rédiger le cahier des charges et d'acquérir la certitude morale et matérielle que notre maison remplirait rigoureusement les obligations qui lui sont imposées, c'est surtout à votre intervention auprès de monsieur le ministre que je dois l'honneur d'être le soumissionnaire de la dite fourniture. Croyez, monsieur le sous-secrétaire, que vous n'avez pas obligé un ingrat.
Monsieur de Francheville, s'adressant de nouveau à monsieur Morin,
avez-vous écrit ?
Que vous n'avez pas obligé un ingrat, répète monsieur Morin en achevant d'écrire ces mots, puis se tournant vers le haut fonctionnaire.
Que le diable m'emporte si je vois où vous voulez en venir, et sans cette lettre, dites-vous, il n'y a rien de fait.
C'est une énigme. Vous allez en savoir le mot. Poursuivez, je dicte.
J'écoute.
Monsieur de Francheville reprend ainsi. Après avoir longtemps et vainement cherché le moyen de vous témoigner ma reconnaissance autrement que par des paroles, monsieur le sous-secrétaire d'État, j'ai pensé que, sans offenser en rien votre délicatesse si connue, je pouvais vous rendre l'intermédiaire d'une œuvre équitable et généreuse en faveur de pauvres artisans, dont le modique salaire est souvent plus qu'insuffisant.
Comment, quoi, que signifie ?
Dit M. Morin abasourdi, se retournant vers le haut fonctionnaire.
Quels artisans ?
Ne m'interrompez point et écrivez, vous allez savoir ce dont il s'agit, poursuit M. de Francheville. Et il continua de dicter à M. Morin ce qui suit.
Personne n'ignore, monsieur le sous-secrétaire d'État, qu'une fourniture aussi considérable que celle dont notre maison est chargée ne puisse et ne doive, grâce à une bonne et intelligente gestion, rapporter quelques bénéfices honorables et avouables. J'évalue le chiffre certain de ces bénéfices à environ 200 000 francs. Mon désir, et celui de ma maison, serait que la moitié de cette somme fût, sous le sceau du plus profond secret, en ce qui touche son origine, distribuée par vos mains, monsieur le secrétaire général, aux honnêtes artisans chargés de familles qui vous sembleraient méritants, et au fur et à mesure de leurs besoins. Ma maison acquitterait ainsi une dette envers l'humanité, et sa dette de reconnaissance envers vous, monsieur le secrétaire général, en vous mettant à même de satisfaire les nobles penchants de votre cœur par la distribution de ces secours aux malheureux. Une personne sûre vous remettra cette lettre, dans laquelle sont inclus 100 000 francs en billets de banque.
C'est donc 100 000 francs de plus que vous exigez ? S'écrie M. Morin, s'interrompant d'écrire, et jetant la plume.
En ce cas, je vous dis à mon tour, il n'y a rien de fait. Je ne consentirai jamais à vous accorder un centime au-delà des 400 000 francs convenus, et je...
Je ne vous demande pas un centime de plus.
Comment ?
Et ces 100 000 francs applicables à de bonnes œuvres faites à nos dépens ?
Eh bien, elle est sur ma foi fort commode.
Et surtout fort peu coûteuse, votre manière de pratiquer la charité.
Vous êtes dans l'erreur. Les 100 000 francs dont il est question dans cette lettre, vous ne me les donnerez pas.
Je ne vous les donnerai pas.
Non.
Est-ce clair ?
Fort clair.
Mais le reste ne devient que plus obscur.
Attendez.
À quoi bon alors mentionner cette somme dans cette lettre ?
Et puis d'ailleurs, cette lettre même offre un danger que...
Achevez d'abord d'écrire. Offrez ensuite vos observations, je vous répondrai, tout s'éclaircira. Dieu le veuille, car jusqu'à présent c'est la bouteille à l'encre. Enfin, dictée, j'écris. Puis-je espérer, monsieur le sous-secrétaire d'État, poursuivit monsieur de Francheville, que vous n'interpréterez pas autrement qu'elle ne doit l'être, une démarche inspirée par la gratitude et par la connaissance de vos sentiments généreux. Si, cependant, contre toute prévision, cette offre de notre maison ne vous semblait pas acceptable, j'ose espérer qu'en la regardant comme non avenue, vous n'inculperiez pas du moins les bonnes intentions de celui qui a l'honneur de se dire, avec le plus profond respect, monsieur le sous-secrétaire d'État, votre très humble et très obéissant serviteur, etc. Monsieur de Francheville ajoute, s'adressant à monsieur Morin, « Est-ce écrit ?»« Oui, et maintenant, puis-je enfin savoir ?»« Cette lettre, condition absolue de la concession de la fourniture, me sera remise par vous, moins les 100 000 francs qu'elle est supposée renfermer, ce matin, avant midi, ainsi que la somme en question, et tantôt, à 3 heures, M. Gobert pourra se présenter à mon cabinet au ministère. Je lui remettrai la concession de la fourniture. D'abord, mon cher monsieur de Francheville, vous ne réfléchissez pas que cette lettre offre un inconvénient fort grave. Quel inconvénient ? Celui de contenir une espèce de tentative de corruption envers un fonctionnaire public. Très habilement déguisé, il est vrai. Mais il n'importe, cette tentative, je connais mon code, est passible de la police correctionnelle. Vous n'avez point sans doute, mon cher monsieur, songé à cela. J'ai tellement songé au contraire qu'une heure après sa réception, cette lettre sera déposée par moi au parquet de monsieur le procureur du roi. Hein ? Fit monsieur Morin bondissant sur sa chaise et regardant monsieur de Francheville avec stupeur. Plaît-il ? Je vous dis que la lettre de monsieur Gobert sera déposée par moi au parquet de monsieur le procureur du roi une heure après que je l'aurai reçue. C'est assez net, j'imagine.
Fort net ? Répond le fournisseur encore suffoqué par la surprise. Fort net, en vérité. Ce qui ne m'empêche pas d'être abasourdi, renversé, de la parfaite placidité avec laquelle vous nous demandez de vous fournir bénévolement la corde qui doit servir à nous pendre en nous avertissant, non moins placidement, de l'usage que vous voulez faire de la dite corde. Morbleu, c'est à n'y pas croire, et j'ai comme un éblouissement.
Parce qu'au lieu de regarder froidement au fond des choses, vous ne considérez que leur surface.
Surface tant que vous voudrez, il n'en est pas moins vrai que...
Mais encore une fois, ne vous arrêtez donc point aux apparences, répondit M. de Francheville, haussant les épaules. Examinez donc le vrai des choses, et le vrai le voici. Primo, point capital, cette tentative de corruption est faite, non pas avant, mais après l'obtention de la fourniture.
D'accord, mais... Écoutez-moi bien, vous répondrez ensuite.
Or, cette seule circonstance, sur laquelle j'attire votre attention, change complètement la nature du délit, si délit il y a. Remarquez bien ceci. Ce n'est plus vouloir corrompre, puisque l'on a obtenu ce que l'on désire. C'est vouloir témoigner sa reconnaissance d'une façon blâmable, sans doute, aux yeux de la loi, mais au fond, assez excusable. Enfin, la sincérité de l'offre et le charitable emploi affecté à la somme peuvent être, sinon admis par le tribunal, du moins très habilement soutenus devant lui par l'avocat de M. Gobert. Rappelez-vous ceci au besoin. Lequel avocat devra invoquer, à l'appui de la bonne foi de son client, mon renom si mérité d'homme charitable et généreux, bien que je ne possède d'autre fortune que mes appointements. Ainsi, quoi d'étonnant à ce que M. Gobert ait cru ne pouvoir mieux me prouver sa gratitude qu'en me fournissant les moyens de venir en aide à l'infortune, etc., etc. Voyons, commencez-vous à comprendre ?
Je commence. Ah, mon cher monsieur de Francheville,
eh bien, vous êtes d'une fière force.
Je suis prudent. J'ai souci de l'avenir et de ma bonne renommée, voilà tout.
Il vous importe autant qu'à moi que cette affaire demeure secrète. J'ai pris à cet effet toutes les précautions imaginables. Mais elles peuvent être déjouées par une circonstance imprévue. Il peut transpirer que j'ai vendu cette fourniture. Les journaux hostiles au gouvernement du roi redoublent de violence depuis le déplorable procès que vous savez. Ils peuvent, je ne sais comment, être mis sur la voie de cette affaire, l'ébruiter.
C'est impossible. Tout se passe entre vous et moi, à l'insu même de Gobert, mon homme de paille. Il ignore mes sacrifices pour obtenir cette fourniture.
mon intérêt, vous en convenez, vous répond de ma discrétion. Qui donc pourrait révéler nos arrangements? Vous, par exemple? Comment? Vous me croyez capable d'une telle indignité? Est-ce qu'encore une fois, mon intérêt ne vous répond pas de ma discrétion? Mon cher monsieur Morin, en pareille affaire, il faut toujours tabler sur ceci, que notre complice et notre ennemi mortel est capable de se vendre lui-même afin de se donner la satisfaction de nous perdre avec lui. Me soupçonner de... J'ai besoin de faire mieux que vous soupçonnez. Il faut que je vous regarde comme mon ennemi implacable, et partant de cette hypothèse, je me dis, demain, M. Morin voudrait, au risque de se perdre, divulguer ce qui s'est passé entre nous. Quelle créance obtiendrait ces affirmations? Examinons. M. Morin est flétri par des faillites quasi frauduleuses. M. Morin est ce qu'on appelle dans le monde des affaires un homme taré, véreux. Le portrait n'est point précisément flatté. Nous ne sommes point ici pour échanger des madrigaux, mon cher monsieur Morin. Ainsi, je poursuis ma supposition. Vous m'accuseriez de vénalité? Quelle créance obtiendraient vos affirmations? Aucune, probablement, si l'on comparait l'accusateur à l'accusé, car enfin, quelle est ma réputation à moi? Excellente. Mon intégrité a été jusqu'à présent irréprochable. Oui, irréprochable, répète M. de Francheville en étouffant un soupir involontaire. Mon nom, mes services administratifs sont environnés de l'estime générale. Enfin, lors de la fourniture en question, le soumissionnaire ayant tenté non de me corrompre, ma réputation d'honnête homme éloignée de lui la seule pensée de cette tentative, mais ayant voulu me témoigner sa gratitude, sincèrement peut-être, mais à la façon d'une âme peu délicate, j'étais tellement blessé de ses offres que je les ai déférées à la justice. Or, mon cher monsieur Morin, tout sans doute est possible, mais je vous le répète, il est plus que probable que si la question se posait ainsi entre vous et moi, vous seriez considéré comme un abominable diffamateur, car vous ne possédez pas une ligne de moi qui puisse me compromettre. Et vos obligations souscrites à mon profit, vous êtes un enfant. Cependant, ces obligations, est-ce que vous ne me les rendrez pas si l'affaire se conclut? C'est juste. Vous affirmeriez, je n'irai et je serai cru. Tout ceci est fort habile et fort profondément calculé, j'en conviens. Mais voulez-vous savoir toute ma pensée? Certes. Tenez, mon cher monsieur de Francheville, et ceci soit dit à votre avantage, c'est pour la première fois de votre vie que vous prévariquez.
Oui,
répond le haut fonctionnaire, étouffant un nouveau soupir. C'est la première fois. Et sans cette diablesse de cri-cri, parlons affaire, monsieur Morin, parlons affaire. Soit. Eh bien, novice en prévarication, vous vous exagérez le danger de la chose. Vous recourez à un luxe de précautions et de combinaisons plus nuisibles qu'utiles, croyez-en un vieux routier. Trop de précautions ne nuit jamais, au contraire. Aussi je tiens absolument à la lettre en question. Mais je vous en conjure, remarquez donc que si vous déposez la lettre au parquet, il y aura presque assurément des poursuites contre Gobert. Je l'espère bien, et pour ce j'userai de toute mon influence personnelle et celle du ministre. Et si Gobert est condamné, tant mieux. En vérité, vous êtes d'un sang-froid incroyable. À quoi Gobert sera-t-il condamné? À une peine très légère, puisque, je vous le répète, sa tentative de corruption aura eu lieu non pas avant, mais après la concession de la fourniture, circonstance qui réduit le délit presque à néant. Puis, je vous le répète, son avocat doit surtout plaider la bonne foi de son client, qui, sachant mon renom d'homme généreux et charitable, malgré mon manque de fortune, aura cru, bêtement sans doute, mais loyalement, me faire une offre acceptable. En définitive, tout se résumera donc pour Gobert, au pis-aller, car il est fort probable qu'il sera acquitté, vu ses honorables antécédents. Tout se résumera, dis-je, en 2 ou 3 mois de prison. Or, que vous importe, après tout, qu'il aille en prison, puisque de fait, vous avez la gestion de cette fourniture. Évidemment, je me passerai très facilement de Gobert, mais il est douteux qu'il consente à écrire une lettre qui puisse l'amener sur les bancs de la police correctionnelle, l'exposer à quelques mois de prison. Il est, je vous l'ai dit, foncièrement honnête homme, mais ce n'est point un aigle. Justement, à ça, vous n'avez donc pas lu ma lettre, quoique vous l'ayez écrite? Qu'est-ce à dire? Elle est justement dictée au point de vue d'un honnête homme d'un esprit un peu borné, tel que m'a paru M. Gobert lors de nos entrevues. Vous n'aurez donc à le convaincre et rien ne vous sera plus aisé. Que la fourniture obtenue, il serait convenable de me témoigner de votre gratitude en m'offrant 100 000 francs à distribuer en bonnes œuvres, et que si je refuse cette offre, il n'en sera que cela. Rien ne pourra donc faire craindre à M. Gobert un procès correctionnel. Et la condamnation échéant, vous direz à votre associé, qui se serait jamais attendu à ce qu'une proposition si honorable fût interprétée de la sorte. Mais enfin, quelques mois de prison sont bientôt passés. Une pareille condamnation n'entache en rien votre honneur. Tout cela est bel et bon, mais si Gobert a le nez plus fin que nous ne le supposons, et s'il se refuse à écrire la lettre, en ce cas, mon cher Monsieur Morin, je vous l'ai dit, il n'y aura rien de fait. Et mes obligations, quand me seront-elles payées? Lorsque se rencontrera l'occasion d'une autre fourniture, mais cette occasion pourra ne pas se représenter de longtemps, je vous en préviens. Et jusque-là, vous attendrez. Vous avez trop de bon sens pour me mettre en demeure de vous payer. Vous savez que cela m'est radicalement impossible. Ferez-vous saisir une partie de mes appointements? Vous ne serez guère plus avancé. Maudite affaire! À qui la faute? Il dépend de vous qu'elle s'arrange à notre avantage à tous deux, moyennant cette lettre. Et si cela ne tenait qu'à moi, vous l'auriez à l'instant. Vous ne me ferez pas croire qu'adroit comme vous l'êtes, vous n'obtiendrez pas cette lettre de Gobert, garçon borné, et qui de plus vous doit tout. Enfin, on verra, on tâchera. Mais je vous le répète, ce luxe de précaution, cela me regarde, mon cher monsieur Morin. Et tant d'argent dépensé pour qui? Pour une petite coquine qui vous rira au nez lorsqu'elle aura mangé votre dernier sou? Non point. Je la tiendrai ferme et serrée. Ah, que vous connaissez peu ces créatures-là! Tenez, vous êtes novice en bien des choses, malgré vos 60 ans, mon pauvre monsieur de Francheville. Quand vous tiendrez une fille comme Cricri, vous pourrez être aussi fier que si vous aviez déniché un merle blanc. J'ai mon projet, et s'il réussit, je vous déclare qu'elle sera, aussi longtemps que je le voudrais, soumise à mes moindres volontés. Et ce beau projet, quel est-il? J'ai, pour l'accomplir, compté sur vous. Comment cela? Oh, rien de plus simple. Si notre affaire se conclut, vous me donnerez en compte une lettre de change de 1 000 francs à 3 mois. À votre ordre? Non pas. Cette fille ignore mon vrai nom, ma demeure et les fonctions que j'occupe. Il est vrai. Vous êtes, aux yeux de Cricri, monsieur Duport, négociant marié et retiré des affaires. Je vous donnerai donc en compte une lettre de change de 1 000 francs tirée sur mon correspondant de Nantes, et écrite tout entière de votre main. Soit. Et vous dites qu'à l'aide de cette lettre de change, cet endiablé Cricri deviendra la plus soumise des femmes et restera dans ma dépendance absolue, mutuellement mangée, comme vous dites, jusqu'à mon dernier sou. Vous parlez sérieusement? Très sérieusement. Je vous dirai le reste en temps et lieu. Donc, pour nous résumer, si vous m'apportez ce matin, avant midi, la somme convenue, mes obligations et la lettre de Gobert, la concession de la fourniture sera signée à 3 heures par le ministre. Mais à 4 heures, la lettre de Gobert sera déposée au parquet de monsieur le procureur du roi. C'est à prendre ou à laisser. Le domestique du monsieur de Francheville, ayant en ce moment frappé à la porte, entre et dit à son maître. L'homme de confiance du propriétaire désirait parler à monsieur. Priez-le d'entrer. Puis se levant, monsieur de Francheville ajoute, s'adressant à monsieur Morin. Au revoir, mon cher monsieur. Ainsi, vous m'attendez jusqu'à midi. Jusqu'à midi, mais pas plus tard, répond le haut fonctionnaire à M. Morin, qui sort et se croise avec M. Tranquillin, lequel reste seul avec M. de Francheville.